France Inter.
Bonjour à tous. À la une de ce 13h, riposter ou bien négocier? Une partie de la planète s'interroge encore sur l'attitude à tenir après les hausses des droits de douane brutalement imposées par Donald Trump, risque inflationniste, voire récessionniste aux États-Unis. Hier, la Bourse de Paris a connu sa plus forte chute depuis 3 ans. Avec quelles conséquences pour les épargnants français? Eh bien, nous en parlerons avec notre invité. Nous irons dans ce journal en Ukraine, à Kiev. L'Ukraine, où un missile balistique russe sur la ville natale de Volodymyr Zelensky a fait 18 morts, dont 9 enfants. Nous serons également en Birmanie, plus d'une semaine après le violent séisme. Nous verrons comment la junte au pouvoir tente d'éloigner les journalistes qui s'intéressent de trop près à la gestion de crise. À la une encore, les hôpitaux saturés à Saint-Denis de la Réunion, conséquence de l'épidémie de chikungunya. Près de 6000 nouveaux cas se sont déclarés à la Réunion entre le 17 et le 23 mars. Après ce journal, votre rendez-vous avec le magazine d'investigation de France Inter, secret d'info. Benoît Colombat, sur quel thème?
Eh bien, nous allons vous faire entendre des témoignages rares de pompiers normalement tenus à une obligation de réserve, confrontés à la violence et au harcèlement sur leur lieu de travail. Certains se suicident et d'autres, de plus en plus nombreux, déposent plainte contre leur hiérarchie.
Secret d'info, à tout à l'heure, Benoît. Et puis le temps de ce samedi, Magali Rochereau, c'est une belle météo de printemps.
Oui, Eric, c'est un ciel dégagé qui nous attend ce samedi avec des températures au-dessus des normales de saison.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Malgré la chute des bourses internationales qui ont dévissé donc hier, Donald Trump reste inflexible sur le bien fondé de ses droits de douane applicables en France depuis 6 heures ce matin. Une surtaxe de 10% sur les produits importés aux États-Unis avant d'autres hausses prévues mercredi. Et je salue déjà notre prochain invité, le président du Cercle des analystes indépendants. Bonjour Éric Galliègue.
Bonjour monsieur.
Vous nous détaillerez dans un instant les conséquences pour les épargnants français. Avant cela, nous partons au Royaume-Uni, l'un des pays qui s'en sort le mieux sur le continent européen, taxé moitié moins que ses voisins. Emeline Vin s'est rendue dans une distillerie londonienne qui estime que ses seuls 10% sont donc un moindre mal.
La distillerie Doghouse exporte une petite partie de ses whisky, gin et vodka vers les États-Unis. Depuis le retour de Donald Trump, le fondateur Braden Saunders craignait de lourds droits de douane. Alors 10%.
Quel soulagement quand on voit les 20% imposés à l'Europe. Mais 10%, ça a beau sembler peu, c'est beaucoup pour les petits producteurs. Ça aura un impact sérieux sur nos opérations là-bas.
Assis sur un tonneau de whisky, le chef d'entreprise se rassure. Londres a une relation particulière avec Washington, en partie grâce au Brexit.
Je suis persuadé qu'on va réussir à négocier pour diminuer ces 10%. Trump veut rester ami avec le Royaume-Uni. Entre le Brexit, la relation historique entre les deux pays, s'il doit conclure un accord avec quelqu'un, le Royaume-Uni paraît évident.
Même si Donald Trump a pour l'instant fait peu de cas de cette relation spéciale, le gouvernement entend bien tirer parti. Jonathan Reynolds, ministre du Commerce.
Mes collègues et moi-même avons entrepris d'intenses discussions en vue d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Cependant, nous nous réservons le droit de prendre toute action que nous jugerons nécessaire si nous ne parvenons pas à un accord.
Le secteur pharmaceutique devrait aussi être affecté par les nouveaux droits de douane, ainsi que les voitures britanniques soumises, elles, à un tarif de 25%. Londres et Melbourne, RFI pour France Inter.
Voilà donc pour les liens que Londres souhaite privilégier avec Washington. Depuis jeudi, les bourses dévissent, moins 6% à Wall Street. À Paris, c'était hier la pire séance depuis 3 ans, moins 4,26%. Alors, quelle stratégie les épargnants français doivent-ils adopter? On vous retrouve, Éric Galliègue, président donc du Cercle des analystes indépendants. Alors, faut-il prendre ces chutes boursières comme de simples corrections? Correction à l'image de ce qui s'est passé déjà durant le Covid, la Covid ou bien la guerre en Ukraine, ou bien assiste-t-on aux prémices d'un possible crack?
Alors effectivement, la situation est quand même très particulière avec ces annonces de M. Trump, le droit de douane qui passe à 20% à peu près, ce qui est quand même considérable. Donc c'est vrai que par rapport au Covid, on a une grande différence, c'est que le Covid, c'est un choc externe en quelque sorte, qui est bien identifié, alors qu'ici, on a affaire à un choc endogène, un choc qui est propre au système, notre propre système.
Donc c'est quelque chose qui est propre à un homme, même plus qu'un système, c'est un homme.
C'est propre à un homme, c'est propre donc effectivement à ce qui se passe aux États-Unis et naturellement le vrai problème au-delà donc de la hausse des droits de douane, c'est l'incertitude. Hein. C'est la grande incertitude qui règne encore aujourd'hui sur les suites qui vont donner lieu donc à cette hausse des droits de douane.
Des suites qui vont donc dépendre des propos de Donald Trump. C'est donc pas forcément parti pour durer.
Alors oui, voilà, c'est ça, en quelque sorte, le problème. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, en quelque sorte. On a une grande incertitude sur le fait que ces droits de douane vont être pérennes, vont durer un mois, deux mois, trois mois, six mois, on ne sait pas. On ne connaît pas exactement l'ensemble des réactions qui vont être prises par les pays partenaires donc des États-Unis. Et ce que l'on sait et ce que nous disent les économistes d'une façon très unanime, c'est que la croissance devrait être affectée d'une façon significative, hein, donc une baisse de la croissance aux États-Unis et dans le monde entier d'ailleurs, une inflation qui sera supérieure et des entreprises qui vont probablement réduire leurs marges.
Et alors aujourd'hui, pour les épargnants français et pour les boursicoteurs aussi, même s'ils ne sont pas nombreux, moins nombreux que les épargnants, est-ce qu'il faut garder les actions américaines, notamment ce qu'on appelle les 7 magnifiques, dont Tesla, Amazon ou Apple ?
Alors les 7 magnifiques, comme on dit, elles ont déjà baissé de 25%, à peu près entre 20 et 25% en moyenne, c'est donc une baisse significative. Bon, il faut quand même rappeler la stupéfiante hausse de l'année dernière, de 2024 et de 2023. Hein. On a assisté à un quasi doublement donc du cours de ces actions. Donc aujourd'hui, cette baisse qui peut paraître importante et qui l'est effectivement par rapport au plus haut, n'est pas considérable par rapport, je dirais, aux problèmes que vont affronter ces différentes entreprises qui étaient quand même un petit peu chères.
Et en France, y a-t-il à craindre, par exemple, pour les assurances vie ou bien pour l'épargne, notamment sur le livret A?
Alors c'est vrai que les actions françaises ont perdu quand même 10% la semaine dernière, hein. C'est quand même assez important. Donc il y a effectivement sur le papier déjà des pertes importantes. Ce qui est certain, c'est que à nouveau, et c'est important de le rappeler, le vrai problème c'est l'incertitude, mais on sait que ces droits de douane sont très très négatifs et que probablement lorsqu'une tendance s'inverse, ce qui est le cas, une tendance boursière s'inverse et qu'on passe donc du côté négatif, du côté baissier, ça peut durer encore et effectivement on craint tous que cela continue la semaine prochaine tant qu'on n'aura pas un peu d'éclaircissement et malheureusement on n'en aura probablement pas puisque à nouveau c'est le gros brouillard par rapport à ce qui pourrait se passer à la suite donc de ces droits de douane.
Merci beaucoup de votre regard aiguisé, Éric Galliègue, donc président du Cercle des analystes indépendants. Notez encore que des centaines de manifestations sont prévues ce samedi à travers tous les États-Unis pour protester contre ce que les opposants appellent les dérives autoritaires du président Trump. Manifestation prévue aussi cet après-midi à Paris. Et partout, le même mot d'ordre, même slogan, hands off, qu'on pourrait traduire par bas les pattes, adressé à l'administration Trump, accusé de s'accaparer le pays comme s'il lui appartenait. Peut-on encore parler d'espoir de cesser le feu en Ukraine? Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, une ville est régulièrement la cible d'attaques aériennes près de la ligne de front. Cette ville, c'est Kryvyi Rih, ville natale du président Zelensky. 600 000 habitants avant la guerre. Eh bien, hier soir, un missile russe est tombé sur Kryvyi Rih. Il a fait 18 morts, dont 9 enfants. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial à Kiev. Une frappe donc dans une zone stratégique.
À seulement 80 km de la ligne de front, Kryvyi Rih est effectivement une cible privilégiée de l'armée russe pour sa proximité, sa densité, 600 000 habitants avant le début de la guerre, son symbole aussi, ville natale du président ukrainien. Elle a souvent été présentée comme un point fort de la résistance, mais aussi un point stratégique. Kryvyi Rih, c'est un verrou entre le sud, en partie occupé par les Russes, et l'est de l'Ukraine. Mastodonte de la sidérurgie, usines et mines d'acier en font un des atouts économiques majeure du pays. Alors pour toutes ces raisons, elle subit des bombardements russes répétés. Mercredi dernier, déjà 4 personnes sont mortes dans un tir de missile. Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky a dénoncé des frappes qui ne peuvent être accidentelles. Une preuve que la Russie ne veut pas d'un cessez-le-feu et que la diplomatie ne signifie rien pour Moscou. Les autorités militaires russes assuraient l'avoir visé un restaurant où se trouvaient des commandants ukrainiens et des instructeurs occidentaux. À Kryvyi Rih aussi, cette guerre est une guerre de communication alors que les négociations autour d'une trêve patinent.
Faustine Calmel, notre envoyée spéciale à Kiev, avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Dans la bande de Gaza, il y a une quinzaine de jours, 15 secouristes et personnels humanitaires étaient tués par des tirs israéliens à Rafah. C'est ce qu'affirmait le Croissant Rouge palestinien. Et bien aujourd'hui, pour étayer sa version, le même Croissant Rouge évoque une vidéo récupérée sur le téléphone portable d'un secouriste tué, où l'on voit des ambulances clairement reconnaissables, gyrophares allumés, et l'on entend pourtant le bruit de tirs nourris. Les corps des humanitaires ont été retrouvés le 30 mars enterrés sous le sable près de Rafah. Une semaine et un jour après le séisme en Birmanie, le bilan est toujours provisoire. Il dépasse désormais les 3500 morts, 5000 blessés également, si l'on en croit la junte militaire au pouvoir, car les chiffres sont loin d'être fiables. Le régime birman exerce une très forte pression sur les journalistes pour invisibiliser sa gestion de la catastrophe. Valentin Dunat rentre de Birmanie et il a interrogé la chef des projets et développement de Reporters sans frontières en Asie.
Pas de doute pour Chatakchi Verma, la junte au pouvoir en Birmanie est fidèle à elle-même en restreignant considérablement l'accès à l'information.
Il ne reste plus beaucoup de journalistes dans la zone contrôlée par la junte. Il est donc très difficile d'obtenir des informations de là-bas. Par ailleurs, il n'autorise pas les journalistes internationaux à s'y rendre. Cela crée donc un trou noir.
Une junte qui, par ailleurs, continue de mener des attaques aériennes, des bombardements au-dessus du chaos.
Cette information a été remise en question quand on a appris que la junte avait annoncé un cessez-le-feu temporaire, mais les frappes aériennes se sont poursuivies.
Pour tenter d'en savoir plus, l'une des missions de Reporters sans frontières, c'est donc d'aider les quelques journalistes sur place qui font face à de nombreuses difficultés, notamment pour obtenir les informations, mais également pour les transmettre.
Nous avons reçu une demande de deux médias clandestins que je ne nommerai pas, mais ils se trouvent actuellement dans les zones contrôlées par la junte birmane et ils espèrent recevoir des batteries solaires. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, essayer de leur envoyer tout cela.
Cette mission est donc périlleuse, mais nécessaire pour contourner ce mur de silence que les autorités birmanes sont en train de construire.
Et selon une estimation des Nations Unies, plus de 3 millions de personnes ont été affectées par le séisme en Birmanie.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
L'épidémie de chikungunya à La Réunion, le pic est attendu dans une dizaine de jours. Près de 6000 nouveaux cas se sont déclarés entre le 17 et le 23 mars. Dernier bulletin de l'Agence régionale de santé. Le CHU de Saint-Denis de La Réunion est saturé malgré l'ouverture de lits supplémentaires. Et la campagne de vaccination ciblée doit débuter lundi. Elle est destinée aux personnes avec comorbidité et également aux plus de 65 ans. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Les 40 000 doses de vaccins ont commencé à arriver sur l'île.
Oui, les grossistes répartiteurs sont en train de les livrer, notamment dans les 250 pharmacies de l'île. Alors, il y a déjà des vaccins sur l'île, mais à partir de lundi, les doses pour les personnes fragiles seront remboursées. Et il a fallu pour cela une dérogation, parce que le risque chikungunya concerne plutôt d'habitude les voyageurs dans l'Hexagone. Situation évidemment différente à La Réunion, souligne Claude Maraudon, le président de l'Ordre des pharmaciens de l'île.
C'est un virus qui est endémique et que ça concerne des personnes qui y habitent. Donc la conception du vaccin est en fait par le laboratoire pour des voyages. Il a bien fallu trouver une dérogation et on a eu un arrêté le 1er avril qui permet de faire une campagne de vaccination.
Et en cette saison des pluies post-cyclones, tout le monde connaît quelqu'un qui est touché ou qui a été touché en ce moment. Sarah, son mari, ses deux enfants par exemple, tous y ont eu droit. Son bébé de 5 semaines très fortement.
Il avait 40, 39,5 de fièvre, ça descendait pas. Il avait une éruption vraiment des pieds à la tête très diffuse, il était assez rouge. Et après, ça s'est dégradé avec des douleurs intenses, mais on ne pouvait plus le toucher. Et sur les douleurs, les nouveau-nés, ils font des pauses respiratoires. Et donc du coup, en fait, sur les pauses respiratoires, ils désaturaient, donc ils devenaient bleus. Et donc il a fallu qu'il soit hospitalisé finalement.
Bébé surveillé en soins intensifs pendant 4 jours. Heureusement, il a totalement récupéré depuis. Les pharmacies, elles, sont dévalisées en ce moment de répulsifs, de moustiquaires. Évidemment, ce sont les premières mesures barrières très importantes.
Merci Béatrice Duguay. Et en Martinique également, un cas de chikungunya a été déclaré. Le patient est originaire justement de La Réunion et il a séjourné en Martinique la deuxième quinzaine de mars. L'île antillaise de la Martinique donc a déployé des mesures préventives pour limiter la propagation du virus. Le 8 8 mai prochain, ce sera un jeudi et certains ont déjà noté que cela pouvait faire un grand pont jusqu'au dimanche. Mais pour ceux qui envisagent de prendre le rail, eh bien, il faudra peut-être faire preuve de patience ou carrément changer les plans, car le syndicat Sudrail appelle les contrôleurs à faire grève les 9, 10 et 11 mai. Or, pour le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, qui était l'invité ce matin de France Inter, le dialogue social pourrait encore éviter le pire.
Notre priorité, c'est de faire rouler tous nos trains dans les prochaines semaines. Et pour ça, on a le dialogue social dans notre entreprise. Et ces derniers jours, on a reçu absolument toutes les organisations syndicales. On a écouté leurs revendications. Et je dirais qu'on a fait des avancées très concrètes. C'est sur les congés, c'est sur les repos. Moi, je suis très confiant et ça va permettre à tous les Français de voyager en sérénité dans les prochaines semaines. On change un peu de contexte. On est maintenant en concurrence. Nos concurrents sont présents et je pense qu'on ne peut pas se permettre une grève. Cette grève, tout simplement, mes clients d'aujourd'hui, ils diraient tout simplement chez mes concurrents. Et puis, on a un petit risque, c'est qu'ils ne reviennent pas.
Voilà, pour l'optimisme du PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, avec Alexandra Ben Saïd ce matin sur Inter. Optimisme qui, cependant, doit être atténué ce matin, car depuis cette interview, eh bien, un influent collectif ASCT-CNA a rejoint l'appel à la grève des contrôleurs de TGV lancé par le syndicat Sudrail. Ce sera donc, c'est prévu, les 9, 10 et 11 mai prochains. Les vacances scolaires de printemps, elles ont commencé aujourd'hui pour la zone B, c'est-à-dire Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy, Metz, Nantes, Nice, Orléans, Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg, c'est complet. Et pourquoi pas des vacances en Lozère, où la grande majorité des hébergements touristiques ont ouvert cette semaine. C'est le cas du camping Le Tivoli. Nous partons à Mende, où tout est fin prêt pour accueillir les premiers visiteurs. Ici Gare Lozère, c'est un reportage de Saïd Makhloufi.
Feutre à la main, Frédéric Morin écrit en grand sur le tableau à l'entrée du camping.
Oui, on va écrire ouvert.
La saison est lancée.
C'est marqué sur le tableau. Allez, on ouvre.
Avant l'ouverture officielle, Frédéric Morin, le patron des lieux, inspecte une dernière fois les mobilhomes.
Voilà, ouais, tu vois les assiettes, je remets en place comme il faut pour pas que ça tombe. Voilà, les casseroles, les tranneaux, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, chauffe-eau, vérifier que tout fonctionne bien, qu'il y ait de l'eau chaude, et voilà.
Vaisselle, lit, douche, tout est prêt.
Dès ce soir, on peut accueillir du monde.
Les réservations ont déjà débuté.
Ah ben oui, on a des réservations quand même, mais surtout pour juillet et août, mais on en a également pour mai avec les ponts. Donc on a des réservations, ça commence, oui, effectivement, que ce soit pour le locatif ou pour les gens de passage, oui, en emplacement camping.
Des réservations pour Frédéric Morin, mais aucune garantie sur la saison.
La visibilité d'avant-saison, on l'a plus, parce que les gens réservent beaucoup, beaucoup au dernier moment. Ça a changé, je me rappelle, moi, du temps de mon père, quand des fois, fin mars, début avril, on était complet en locatif déjà, tout était plein. Là, c'est pas le cas aujourd'hui.
Et la concurrence des Airbnb n'aide pas vraiment.
Je pense que ça pèse, oui, c'est dommage qu'on ait laissé s'installer cette pratique qui fait de la concurrence déloyale.
Une concurrence que Frédéric Morin va affronter comme chaque année avec le sourire.
Et voilà.
Avec le sourire, ça va mieux. Le football avec l'Allemand Thomas Müller qui va quitter le Bayern Munich à la fin de la saison après 25 ans de contrat dans ce club. Thomas Müller n'est pas n'importe qui. Champion du monde 2014 avec l'Allemagne. Double vainqueur de la Ligue des Champions en 2013 et 2020. À 35 ans, Thomas Müller aurait bien aimé prolonger encore un peu avec le Bayern, mais la direction du club en a visiblement décidé autrement. Nous partons à présent à Lyon. Lyon pour le grand rendez-vous du roman policier, le festival Quai du Polar, jusqu'à demain soir. Festival qui coïncide ce week-end avec les 80 ans de la collection Série Noire chez Gallimard. Une collection créée juste après-guerre. La France était alors fascinée par l'Amérique. Les 80 ans de la Série Noire avec près de 3000 titres parus. Une collection qui n'a jamais cessé de se renouveler, Ilana Mouyoussef.
L'aventure commence dans l'immédiate après-guerre. À l'origine de la collection, un homme, Marcel Duhamel.
Ce qui fait surtout le succès de la Série Noire, c'est cette jeunesse, cette franchise, cette faculté d'enthousiasme qui ne se manifeste que rarement, je dois dire, chez les écrivains du vieux continent. Chaque ouvrage pris à part est en effet une tranche de vie et un documentaire.
C'est vous qui avez eu l'idée du titre de Série Noire ?
Non, c'est Jacques Prévert.
80 ans plus tard, la Série Noire est toujours là, dirigée aujourd'hui par une femme, Stéphanie Delestrée.
C'est aussi une collection qui a su se renouveler tout le temps, qui a su accueillir dans les années 50 des auteurs français très marqués par le milieu et par l'argot du milieu. Par exemple, Simonin avec Grisby en note Grisby qui a été ensuite adapté et devenu les Tontons Flingueurs.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul.
Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle.
Au fil des ans, la série noire accueille Manchette, Pénac, Déoa, Caryl Ferret. Elle reste vivante, même si la source américaine est un peu tarie. Marie-Caroline Aubert, en charge des romans étrangers de la collection.
Je pense que les Américains n'ont plus d'auteurs comme ça. Donc la garder vivante, oui, en allant ailleurs. Je vais aller voir à Taïwan. C'est les lieux différents. Et puis, c'est écouter le monde.
Taïwan, l'Afrique du Sud, la Scandinavie, les nouveaux Eldorado de la série noire.
Grisby, Ornott Grisby qui a annoncé les tontons flingueurs, donc les 80 ans de la série noire. Et je vous renvoie aussi d'ailleurs à l'exposition Série noire et cinéma. C'est jusqu'au 13 mai prochain à Paris, précisément à la galerie Gallimard. Le temps.
La météo. Avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Eric.
Les conditions sont réellement anticycloniques. Hein.
Et oui Eric, c'est un très beau début de week-end avec quand même quelques nuages au-dessus du massif alpin qui pourraient aller jusqu'à l'averse, comme sur le quart sud-ouest du pays, côte aquitaine et midi toulousain où le ciel est assombri jusqu'aux orages au-dessus des Pyrénées. Ailleurs, le soleil est prêt à dominer partout sur votre après-midi.
Et après-midi qui sera d'ailleurs très doux.
Oui, on peut même dire chaud, les maximales dépassent les 20 degrés partout, localement 8 à 10 degrés se rajoutent au normal de saison avec un thermomètre qui affiche généralement entre 20 et 24 degrés sur tout le pays, comptez 21 à 22 à Strasbourg, comme à Lille et à Quimper, 19 à Biarritz, 20 à Toulon, 24 à Valence et jusqu'à 26 à Auxerre. Sur les côtes de Manche, c'est toujours un peu plus frais, les maximales seront comprises entre 17 à 19 degrés et vous aurez 18 à Cherbourg.
Les prévisions de Magali Rochereau.